Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue en Europe pour le 6e service après-vente de la F1 de cette saison. Après une première partie de saison enthousiasmante, les écuries se sont retrouvées le week-end dernier sur le circuit de Montmeló en Espagne pour une course qui se sera inscrite dans la grande tradition des courses barbantes qui assiègent souvent la citadelle des essais hivernaux qu'est Barcelone. Nous avions quitté Brown Grand Prix en vainqueur à Bahreïn avec Button pour la troisième reprise en 4 Grand Prix, mais avec l'arrivée de tout un tas de nouveautés et pour certaines équipes de quasi nouvelles monoplaces, l'espoir était permis de voir la course au titre être relancée, une espérance quelque peu éteinte dès les premiers essais qui ont montré que malgré les changements, rien n'avait vraiment changé. Mais avant d'aller plus loin, retrouvons sans plus attendre nos deux intervenants préférés. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Là, il n'y a pas de petite blague, bonjour à toutes les cloches de Pâques.
Non, comme ça.
Alors, on passe tout de suite au chiffre inutile de Shinji, le chiffre qui ne sert à rien, mais qu'il est toujours utile de savoir pour vivre en société.
Exactement. Ce chiffre, c'est le chiffre...
J'espère que je pourrai le replacer devant la machine à café demain matin.
Tu pourras, on peut toujours le replacer devant la machine à café. Ce chiffre, c'est 2026. Ce n'est pas la date de retour de Colin Chapman d'Entre les Morts grâce à une technologie qu'il aura lui-même inventée.
Il a fumé. 2026, voyons. Ça sera la retraite pour moi bientôt, peut-être. Ah non, même pas. Non,
c'est une idée. Le truc qui est à Valence.
À Valence?
Ouais, le nombre de grues qu'il y a à Valence sur le circuit.
À Valence?
Oui, à Valence. Je sais, on est à Barcelone.
Il y a Barcelone.
On est en Espagne, c'est le Grand Prix d'Espagne, donc
je fais, mais pas à ce point-là.
À Valence, c'est en Espagne, hein, je suis désolé. Hein.
Non, oui, 2026, c'est la date de livraison prévue pour la Sagrada Familia. La fameuse cathédrale qui est à Barcelone, qui est inachevée.
Oui, laquelle est de...
La Sagrada Familia.
Ah.
Voilà. Donc, en réalité, les estimations s'échelonnent entre 2020 et 2030, mais 2026, c'est l'anniversaire de la mort de Antoni Gaudí, l'architecte de la cathédrale. C'est pour ça qu'ils disent, ouais, ça sera en 2026, mais ce sera peut-être pas en 2026, c'est ce que je veux dire. Hein. Elle a été, donc...
Je crois que je préférais le bambou. Je crois que je préférais le panda qui bouffe 14% de bambou.
La construction a débuté en 1882, et pour l'anecdote, Salvador Dalí, vous savez, le peintre.
Oui, merci.
Ah ouais, le peintre, pas de pilote automobile. Attention, faut pas confondre. Souvent, on confond Dalí et Schumacher, on se dit, tiens, peut-être, et là, non.
C'est les moustaches.
Il considérait que l'on devait confier l'achèvement de la cathédrale au chauffeur de tramway à titre expiatoire. Parce que Gaudí, il a été renversé par un tramway.
Nommé Désir.
Peut-être, mais par un tramway quand même. Et ça a dû faire mal.
Je crois que c'est le premier chiffre qu'on rit, mais on rit de je sais pas quoi.
De désespoir. Normalement, on rit de désespoir.
C'est un peu
oui.
Ça.
Oui, je pense que c'est nerveux après le week-end qu'on vient de passer. Je pense que c'est... Merci pour ce chiffre, Shiji.
Est-ce qu'on peut rajouter un petit chiffre qui n'est pas inutile?
Oui.
Ah, quand même. Non, mais j'attends ton aval. Le réalisateur, producteur et financier de cette émission. Ah, d'ailleurs, j'attends toujours mon chèque. Et non, je voulais qu'on rajoute le chiffre 15. Même si c'était pas ce week-end, bah ça fait 15 ans
c'est
que
Senna
est mort et voilà.
Ah, ça y est, tu pompes toute l'émission maintenant.
Je sais. Non, mais je trouve ça dommage que 15 ans après, il y ait pas à nouveau le nom de Senna sur les circuits.
Alors Barrichello, casse-toi si t'es pas bien.
Sois patient. Encore un ou deux grands prix où Button gagne devant Barrichello et Barrichello il s'arrête.
Ah oui, bah il a dit qu'il se barrait.
Allez, on passe tout de suite à la qualification.
Ouais.
Alors, retrouvons tout de suite en direct de Barcelone. Et oui, de Barcelone, retrouvons Enzo qui va tout de suite nous donner la grille de qualification.
Alors, autant CG fait bien Jean-Louis Moncet. Autant toi pour Nelson Montfort, il faudra
travailler. J'avoue, j'ai pensé à Nelson Montfort, mais c'était pas Nelson Montfort que je voulais faire.
Bon, on la remonte ou on la redescend cette grille?
On la redescend, on part de la pôle.
On la redescend comme d'habitude. Et voilà. On va dire un peu à la surprise générale et en jouant les malins, puisque c'est le dernier à s'élancer. Jenson Button arrache, qui est la sixième de sa carrière, la troisième de de Grand Prix en tant que constructeur cette année. Et c'est la 73e position pour Mercedes. Alors, en fait, ça s'est battu jusque dans les dernières secondes donc pour cette pole. Et se sont succédé successivement. Se sont placés successivement à la pole. Donc, Sébastien Vettel qui échoue à la deuxième place. Avant lui, c'était Ruben sur la branche Grand Prix, donc qui échoue à la troisième place juste derrière son coéquipier Jenson Button. Juste derrière, puisqu'une ligne derrière.
C'est d'autant plus étonnant que sur les essais, on a quand même senti que Barrichello
était plus en forme que Button.
D'ailleurs, d'après Jean-Louis Moncey, il paraîtrait que Jenson Button se serait servi des datas de Barrichello pour ce week-end.
Ouais, il paraît.
S'il avait que des datas, la stratégie aussi, hein, un peu, il l'a piqué, mais bon.
Mais celui qui inquiétait le plus, en fait, c'était la quatrième position de Felipe Massa.
Pour deux
raisons, parce qu'il disposait du Kers, contrairement aux trois qui étaient devant lui, donc on attendait beaucoup de son départ. Et également parce que les données fournies par Ferrari nous indiquaient une voiture assez lourde. Bon, on apprendra par la suite, en fait, que contrairement à Raikkonen, il disposait d'une voiture, d'un châssis non allégé. Je crois qu'il en disposera à Monaco. Mais donc, en fait, il était avec une quantité d'essence équivalente.
Ouais, et puis apparemment, la voiture consomme plus. Je pense qu'on en reviendra, mais on en reparlera. Mais la voiture consomme plus que ce qui est attendu.
En troisième ligne se retrouve la deuxième Red Bull de Mark Webber, suivi par les deux Toyota, sixième et septième, avec Glock qui devance Trulli. Un peu décevant par rapport à ce qu'on a vu lors du dernier Grand Prix où ils monopolisaient la première ligne.
C'est même presque volé, hein, parce que ils ont vraiment rien montré ce week-end.
Elles ont marqué le pas, les Toyota, c'est vrai.
Tout à fait.
Mais de toute façon, Trulli est arrivé déjà. Bon, c'est sans doute aussi l'effet de la super bonne prestation des Toyota à Bahreïn. Mais il est arrivé en disant, de toute façon, il n'y a rien qu'à changer. Alors qu'on rappellera quand même que toutes les équipes sont arrivées en Espagne avec des nouveautés.
Ouais.
Même McLaren, même si ça ne s'est pas vu, tout le monde est arrivé.
Et je crois que Trulli et Toyota ont essayé plein de nouveautés et finalement, ils ont couru avec la voiture telle qu'elle était à Bahreïn. En huitième position, le régional de l'étape, donc Fernando Alonso. Et puis, l'éternel brillant pilote des essais libres, mais qui ne confirme jamais en essai privé, du moins en essai qualif, pardon, Nico Rosberg sur la première Williams. Dixième, BMW et la première BMW.
Ah, mais on te comprend, généralement c'est plutôt BMW devant et Toyota derrière, là c'est un peu l'inverse cette saison.
Ah, tout à fait. BMW donc, avec Robert Kubica qui est le seul donc pilote de l'équipe germanique à se qualifier en Q3 et donc qui échoue à la dixième position. Et c'est d'ailleurs nettement mieux que ce qu'ils ont pu la position à laquelle ils ont pu partir à Bahreïn.
Oui. C'est clair.
Mais cette voiture, qu'est-ce qu'elle est affreuse. Oh, sérieux.
La voiture profondément remaniée.
Ah mais ce nez à l'avant, mais alors franchement, moi,
c'est celle qui
de la. J'avais mis dans mon top 3 des voitures les plus belles, et je la retire. Hein.
Du point de vue aspect extérieur, c'est celle qui a le plus bougé.
Elle a le nez de la...
Elle a l'opposé de la Renault.
Elle a le nez de la F combien ? De la Ferrari 99. Un petit peu très très plat en fait. Et puisqu'on parle des voitures moches d'ailleurs, je fais un petit aparté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le Grand Prix, on a eu droit à plusieurs séquences pub, dont plusieurs où on voyait Total qui fait la pub avec la Renault.
Oui. Oui.
Ils n'ont pas osé prendre la Renault de cette année.
Non, c'est la Renault.
Ils ont pris la Renault de l'année dernière en mettant les décos de cette année. Ça m'a fait inférieur. Comme quoi, il n'y a pas nous, que nous qui les trouvons moches. Il y a également tous les gens qui travaillent à la com des différents sponsors. Donc, ont échoué à la porte de la Q3 et donc ils se sont bataillés en Q2. On retrouve Nakajima avec la deuxième, Williams 11e, Nelson Piquet 12e. Déjà il a réussi à passer en Q2, c'est déjà bien.
Ouais.
Non, franchement, pour être honnête, il a fait un bon début de week-end. Il a fait des essais plutôt productifs vendredi. Il a fait deux sorties dans le bac à sable, mais ce qu'il a passé sur la piste était assez productif. Il n'était pas très loin d'Alonso. Et bon, bah, sa qualif, c'est pareil. On sait très bien que la stratégie chez Renault allait plutôt en faveur de. Ah ben non, je crois que je dis une connerie, c'est en Q2. On a rien dit. Allez, va pas le coucher.
Allez, au revoir.
Bon, il fait bien, c'est sa meilleure qualif de l'année. Hein. Faut rendre à Nelson ce qui appartient à Nelson.
En 13e position, Nick Hedfeld et la 2e BMW. Pas de réel progrès depuis le début de la saison, malgré toutes les nouveautés qui ont.
Ouais.
Et il faut attendre la 14e position pour retrouver Lewis Hamilton, champion du monde en titre. De mémoire, j'aurais tendance à dire que les champions du monde en titre, ils n'ont pas été aussi malmenés. Je pense que la dernière fois, c'était peut-être en 97 quand on avait Hill qui est parti chez Arrows, quoi.
Ouais.
Et je crois que là, franchement.
Ah, puis là, franchement, on a vraiment pas.
Ils sont quand même mal, les McLaren. Hein.
De tout le week-end, on n'a pas senti la voiture, la 14e place de Hamilton.
Sur des œufs, permanence.
C'est le niveau de la McLaren, mais c'est le niveau de la McLaren comprenant le coefficient Hamilton.
Ouais, tout à fait.
En plus,
si on retire le coefficient Hamilton, la McLaren, elle s'est même pas sûre qu'elle passe.
Qu'elle passe Q2, en Q2, hein.
Pour moi, c'est la grosse déception du week-end, McLaren, parce que ils avaient fait des petits progrès, ils avaient vraiment beaucoup progressé. Mais ça confirme un peu ce que je disais la dernière fois, c'est que j'avais peur justement que ça ait trop progressé, puis que ben, on arrive avec fondamentalement une voiture qui est à niveau aujourd'hui, mais bon, qui reste à la base mal conçue. Et ben, c'est un peu
comme justement les évolutions, elles sont apparues à Bahreïn.
Mais c'est quand même sidérant qu'après le Grand Prix, t'es quand même le patron de McLaren qui t'annonce que le titre est encore jouable. Alors, ou il a raté les quatre premiers Grands Prix, il croyait que c'était le premier. Ou bien il a tellement l'habitude de mentir chez McLaren qu'il veut faire croire ça à ses sponsors.
Ouais,
c'est pas faux.
ont échoué à la fin de la Q1, 16e.
En 15e d'abord.
15e.
15e.
Ah pardon, j'ai oublié Bruni. Bruni qui a fait quand même, qui s'est qualifié en Q2, magnifique sur la Toro Rosso évoluée, donc avec pas mal de pièces de la Red Bull. Bonne qualif, hein.
Et si je me trompe pas, c'est la 4e fois en 5 courses que Buemi se qualifie devant Bourdais.
C'est ça. Puisque la seule fois où c'est arrivé dans le sens inverse, Bourdais s'est excusé en disant que c'était une erreur.
Ouais.
Non, mais c'était un peu ça, hein. Il avait dit que Buemi avait pas eu de chance, donc il fallait pas s'inquiéter. C'était qu'un accident. On échoué donc. Ouais, c'est un peu ça, donc
on va en 16e position. Maintenant, on est obligé de faire toutes les semaines, quoi.
Je vais même pas m'énerver, là. Mais putain, ils ont déjà fait le coup en Malaisie avec Massa et rebelote, quoi.
Ah ouais, c'est exactement la même erreur.
Mais... Je regarde pas souvent les qualifs, mais là, j'étais énervé.
Mais je pense que ça accrédite ce que je disais au moment où, justement, Massa, je pense que le problème, c'est un problème de gestion par rapport aux pneus.
Ils ont voulu. Non, attends, que tu veuilles économiser des pneus quand tu sais que de toute manière t'es quand même costaud et il y a vraiment aucune chance. Mais là, ils ont pas à être sereins vu la situation des quatre premiers grands prix. Quoi.
Non, mais c'est justement ça. C'est à Bahreïn, ils ont fait la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'à Bahreïn, ils se sont dit l'objectif c'est de passer en Q3 et les deux pilotes sont passés en Q3. Mais le truc, c'est qu'en Q3, ils sont arrivés, ils n'avaient plus du tout de pneus tendres. Donc, ils ont été obligés de se qualifier en pneus durs. Donc, quitte à se qualifier en pneus durs, bah, ils ont opté pour prendre le plein. Ce qui fait que la stratégie de course de Ferrari était une stratégie d'attente qui a payé pour Raikkonen, puisqu'il est reparti avec 3 points. Et là, je pense que ce week-end, comme ils ont vu que la Ferrari avait vraiment fait un bond en avant, ils se sont un petit peu remis dans la tête, on va jouer les deux premières lignes.
Enfin, j'espère qu'on dit jamais 203, mais j'espère pourtant que ce sera la dernière comme ça.
Ouais, ouais.
Je crois qu'ils ont grillé leur cartouche là pour l'année en conneries.
Et puis hier, il y avait Autocritique qui était assez intéressant puisqu'il y avait d'invité Franck Montagny. Et Franck Montagny disait de toute façon, quand vous voulez faire un bon temps et économiser vos pneus, dans une séance qui dure 20 minutes, vous roulez pas pendant les 10 premières minutes parce que vous savez qu'au fur et à mesure, la piste va chauffer, va s'améliorer, donc les bons temps vont être faits vers la fin, pas au début.
Ouais.
Pourquoi demander à Raikkonen de rouler pendant les 10 premières minutes si vraiment ils veulent économiser des pneus qui roulent dans les 10 dernières minutes comme ils faisaient l'an dernier. Donc c'est faute de l'équipe, faute du pilote qui, je pense, ne déchire pas assez avec la voiture parce que Massa s'est qualifié.
Oui.
Allez, on termine cette grille 17e, notre petit français Sébastien Bourdais.
Encore bon. Une erreur, encore la STR5 qui lui convient pas.
Ouais, bon.
Ouais, bah comme d'habitude quoi.
Pour quand même faut quand même moi j'ai regardé les qualifs, je les ai pas regardés depuis le début de la saison là, mais quand on voit les écarts, bien malin qui peut à 5 minutes de la fin dire qui va être éliminé.
Ah ouais, non mais c'est ça, tout à fait.
C'est quand même impressionnant le nivellement des niveaux qu'il y a eu là entre le nivellement des niveaux. Ça elle est forte celle-là aussi.
J'ai des chiffres d'ailleurs sur les écarts.
Ouais c'est assez impressionnant.
Si je me trompe pas d'ailleurs entre Massa qui signe le meilleur temps en Q1 et Raikkonen qui est exclu en Q1. Bah. Je crois qu'il y a 8 dixièmes seulement.
C'est exactement ça. En Q1, les 17 pilotes, premiers pilotes, sont en 1 seconde.
Voilà.
En Q2, les 10 premiers sont en 1 demi-seconde et les 14, donc sur 15, sont en 1 seconde.
On se rappelle quand même d'une époque où on avait Senna qui mettait 1 seconde et demie à Prost qui était son coéquipier.
Voilà.
On se rappelle aussi d'un temps où les voitures qui faisaient plus de 107% du temps du premier étaient exclues, quoi, ne pouvaient pas courir.
Là, c'est mal barré. Quoi. Là, donc, ça aurait tout été accepté.
C'est quand même assez impressionnant la façon dont ça s'est resserré. Et pour ça, bon, ben, on peut dire que le changement de règlement a été bénéfique. Quoi.
Assez bizarrement, je suis pas sûr que ce soit le changement de règlement qui importe. Je pense que c'est surtout la fin des essais privés.
Mais déjà l'an dernier, on avait un certain resserrement, pas aussi fort, d'accord. Mais
ce que c'était dû au
à la standardisation et choses comme ça, quoi.
Et je pense que le fait qu'on ait aussi limité les moteurs et qu'ils aient tous le même régime joue aussi dans ce sens-là, quoi. Je continue avec la grille et je la finis.
Ouais. Oui, voilà, fini là.
18e, et c'est quand même assez pitoyable pour l'équipe vice-championne du monde, Aiki, sur la deuxième McLaren.
Enfin, même pas
on va dire qu'il est seulement 4 places derrière son coéquipier, hein, mais ça fait quand même mal d'être à un dixième d'une équipe équipée d'un moteur client, en l'occurrence Force India, et avec Soutil et Fisichella, quoi. Qu'en plus, l'autre client, Brown Grand Prix, Trost, les premières places. Quoi.
Au point que Mercedes commence à songer à poser l'étoile sur les Braun, sans pour autant revenir sur son accord avec McLaren, mais c'est dire quand même qu'ils ont besoin de visibilité et que la visibilité actuellement, ils l'ont pas du tout avec McLaren.
Ils n'ont pas du tout de il n'y a pas d'étoile hein, sur la Braun pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, exact.
Non.
Donc une dernière ligne avec les Force India.
À leur place, quoi.
Elles ont été bonnes pendant les essais. Hein. On a eu régulièrement Sutil et Fisichella qui étaient bon, c'est que les essais, donc c'est ce que ça inclut, mais Sutil et Fisichella qui étaient dans les 7 ou 8 premiers, c'était pas mal.
Ouais. Mais ce qui est dingue avec Force India, c'est que ils sont derniers, mais par rapport aux années précédentes,
ils sont pas.
Ils sont ils sont juste derniers, parce qu'il faut bien qu'il y ait des premiers et des derniers. Et là, en effet, on n'a pas l'impression d'avoir des chicanes mobiles. Bon bah, ils sont derniers.
Donc on passe à la course.
Ouais.
Allons-y.
Je vous propose tout de suite de commencer. On va pas commencer par le classement, mais on va commencer par le départ.
Ouais.
Et après, on reprendra au fil du classement. Un départ marqué par un assez beau carton. Ça nous manquait d'ailleurs.
Ah ouais.
Un assez beau carton dans le deuxième virage, si je me trompe pas.
Il y a Trulli qui sort et puis il revient en fait. C'est ça en fait.
Et ça
il
part en fait.
La piste, il repart, il revient.
Mais à l'origine, le contact, c'est Nico.
Ouais.
Il y a un truc en fait. Il y a un truc au niveau d'Alonso, ça tasse tout derrière et donc il y a un contact entre Nico. Enfin, tout se tasse derrière. Il y a un contact entre Nico Rosberg et Trulli. Et juste derrière, Hamilton fait un super mauvais départ. Tout le monde, je pense, est un petit peu surpris parce que comme en plus il a le Kers, il peut maintenir sa position, mais au final, il est obligé d'un peu d'abdiquer. D'ailleurs, on le voit dans le virage, il est quasiment dernier. Et il y a, je crois que c'est Sutil qui coupe le virage en montant sur les deux dânes. Vraiment le gros crash se fait. C'est la combinaison du crash entre Trulli et Rosberg et du crash de derrière avec cette belle tentative de sodomie de Bourdais sur Buemi.
Et avec un Hamilton, vous avez vu, qui est vraiment passé au beau milieu d'une pluie de carbone. Hein.
Ouais.
Je me suis même demandé si c'était pas pressé, quoi, parce que vraiment C'était impressionnant.
Mais ça m'a fait penser à Jimmy Johnson en NASCAR. Alors, ouais. Pour expliquer, Jimmy Johnson en NASCAR, c'est le triple champion en titre. Et il s'est attiré la réputation d'être un mec, mais avec une chance, un bol extraordinaire. Dès qu'il y a un crash, il passe au travers, il peut être derrière, ça le frôle, mais jamais ça le touche. Et là, Hamilton, dès que j'ai vu l'accident d'Hamilton, j'ai tout de suite pensé à ce pilote-là. Je me suis dit, lui, c'est la même trempe. C'est la trempe des champions, le talent et une grosse part de chance aussi quand il faut.
Ah, mais ça, tout le temps, hein, les bons pilotes ont de la chance. C'est cool. Ouais.
Donc voilà, sur le départ, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus.
Et sur la course, non plus. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.
Toi, c'est une course comme pareil.
Non, la course, il y a des choses à dire, hein, ne serait-ce que pour la sixième place. Au classement, on a donc la victoire de Jenson Button.
Button, ouais.
À la surprise générale.
C'est vrai.
Bah, c'est vrai que c'était. J'ai envie de dire, ça aurait dû être l'autre, hein.
Ça aurait dû.
C'est un Ralph?
Non.
Tu veux dire qu'il y a un Ralph Button quelque part qui vit? Donc Button, c'est sa cinquième victoire en carrière, sa quatrième de la saison en cinq Grands Prix. C'est la quatrième victoire pour un Grand Prix en tant que constructeur.
Sa
et la 71e.
Sa troisième et demi, s'il te plaît.
Hein?
Sa troisième et demi cette année.
Non, ça, c'est les points. C'est les points. En termes de victoire, il en a quatre.
Non, non, il a raison, Enzo. C'est sa troisième et demi.
Donc, il se fait doubler par Barrichello. Et puis, il y a cette stratégie. Ils étaient mal barrés quand même parce qu'ils avaient choisi trois arrêts pour leurs deux voitures.
Oui.
Ouais, mais ils étaient visiblement pas très confiants pour la course.
Ouais.
La Brown a, je trouve, hein, sur les essais, etc. Ils ont fait des bons essais assez rapides, mais je pense que c'est ils devaient rouler avec des conditions particulières et des.
Alors.
J'aimerais bien que Ferrari soit pas confiant comme ça.
Ah. je veux l'opinion.
Non, mais pour te lancer quand t'es en tête du championnat, pour te lancer dans une stratégie en trois arrêts qu'il y a que Toyota qui le fait,
oui, on a vu ce que
généralement à Barcelone c'est plutôt deux arrêts.
Je pense qu'ils avaient très peur de Massa.
Oui, non. Ça oui.
Ils avaient peur de Vettel.
Ouais,
bah,
aussi.
Ils avaient peur,
peur de Massa, ils ont peur de Massa quand ils voient que Massa il est quatrième sur la grille.
Oui.
Non, et tu sais quoi?
Le mec qui leur fait le plus peur depuis deux, trois courses, c'est Vettel.
Non, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont peur de Vettel et les Red Bull et Vettel, ils avaient peur de Massa.
Ouais. Et Massa, il avait peur de qui?
Oh bah de personne, de toute façon.
De Ferrari, il avait peur de Ferrari. Il a peur de la machine à essence, c'est pour ça qu'il veut pas en approcher. Button, il a fait une course stratégique.
Bah hein. une fois qu'il est passé en deux arrêts, c'était bon.
Mais même au niveau des performances, je trouve qu'il a été relativement bon. Moi, ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un plan sur la tête de course, on voyait tant dans le même plan, on voyait les deux voitures. Il a jamais été au-delà de, je crois, ses 5 secondes avant le premier arrêt. C'est par rapport à ce qu'il avait fait ce week-end où il était un petit peu en retrait par rapport à Barrichello. Là, il était vraiment dans le rythme et il le suivait pas loin derrière.
C'est assez incroyable parce que Button s'envole au championnat et pourtant, ses victoires, il faut qu'il aille les chercher, hein. À part en Australie.
Il faudrait quand même souligner que c'est Barrichello qui a fait un super départ quand même.
Oui, oui.
Mmh. Ouais, tout à fait.
Parce que là, dis-moi, il était quand même sur la deuxième ligne, en troisième position, et il a eu la politesse à tout le monde. Hein.
Excellent départ de Barrichello, oui.
Je pense qu'effectivement, que ce soit Button ou Vettel, ils se sont dit, oh putain, il faut contrer Massa. Et Barrichello, lui, s'est pas posé de questions.
Il y a un truc, c'est que Button avait déjà fait un mauvais départ en Malaisie. Là, il fait pas un super départ, et puis on est quand même sur un circuit où la ligne intérieure est franchement pas avantageuse. Je crois que si on la pire des lignes intérieures qu'on puisse avoir, c'est l'Hungaroring, où il faut surtout pas être deuxième, quatrième, sixième, parce que c'est tout totalement poussiéré. Et là, je pense que c'est pas très loin du Hungaroring au niveau poussière, parce que il y a du vent, il y a du sable, il y a plein de trucs. Vraiment là, Vettel, je pense que le dépassement sur Vettel, il est principalement dû au fait que Barrichello est du bon côté, et le dépassement sur Button, et je pense que Button, les départs, c'est pas son fort.
Ouais, peut-être.
Parce que là, quand même, pour se faire dépasser par Barrichello au départ. C'est vrai que chez Ferrari, on savait pas s'il pouvait dépasser Schumacher.
Ouais.
C'est ça le truc, on reconnaît le potentiel d'un mec seulement quand il a 38 ans.
Ouais.
Dire qu'on a failli pas le connaître.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
c'est pas lui qui avait eu un accident le week-end, le fameux week-end de Monza.
Si, il a eu le bras cassé. Imola. Si, il a eu le bras cassé à la dernière chicane.
Donc Barrichello deuxième.
Ouais.
Barrichello qui s'est bien fait entuber par par Brown. Voilà.
Ah là, ouais.
Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais
il fallait passer en deux arrêts. Il fallait passer en deux arrêts pour les deux pilotes.
Je suis pas d'accord. Regarde, la dernière course à Bahreïn, t'avais les deux Toyota qui étaient aux deux premières lignes. Ça a été les seuls à faire une stratégie un peu différente. Au lieu de mélanger leurs œufs, ils ont mis leurs œufs dans les mêmes paniers. Eh bien, moi, je suis d'accord avec cette pratique. Et je pense que Ross Brawn a eu raison de faire ça.
Ouais, mais attention, parce que à Bahreïn, si je veux.
Et au final, il finit avec un doublé quand même.
À Bahreïn,
je trouve quand même que les deux stratégies étaient pas loin les unes des autres.
Oui, mais enfin, il y a quand même eu du bol de la part de Barrichello de voir Massa pas mal bouchonner Vettel. Les écarts étaient pas énormes. Il faut voir aussi par rapport à Bahreïn, c'est qu'à Bahreïn, l'écart entre en quantité d'essence entre Trulli et Glock et ceux qui sont derrière, je crois que c'est 4 ou 5 tours. Là, l'écart, il est 2 tours. Avec Vettel, il est 2 tours. Avec Massa, je crois qu'il est de 3 tours. Et Massa d'ailleurs va rentrer en même temps que Vettel et Barrichello va ravitailler au 20e tour, Button au 19e. Donc les stratégies sont quasiment équivalentes entre les pilotes. Donc ils étaient partis eux sur un premier relais court, un deuxième relais court, un troisième relais court, un quatrième relais court, là où les autres étaient partis sur un premier relais court et deux autres relais moyens. Ça, il suffisait juste de dire à la fin du premier relais, bon voilà, on a les deux voitures en tête, maintenant on sécurise, on a le niveau, on sécurise, on met les deux pilotes sur la même stratégie en deux arrêts. La situation de Toyota, c'était quand même une situation différente, où les voitures étaient vraiment plus légères, qu'il s'est passé 4 ou 5 tours entre le moment où eux sont rentrés et où les autres sont rentrés, et qu'eux se sont retrouvés dans du gros trafic. Glock, je crois qu'il repart 13e, Trulli doit repartir 7 ou 8e, donc pas mal.
C'est une façon aussi d'avoir des pilotes sur des stratégies décalées, c'est une façon de faire aussi qu'ils ne se battent pas l'un contre l'autre. Et ça peut être bien dans certains cas. Regarde, on voit que finalement l'entente elle est pas aussi cordiale que ça. Bien sûr, ils s'échangent leurs data pendant les essais, mais bon, peut-être qu'ils ont pas envie de Ross Brawn n'a pas envie d'avoir ces deux pilotes en confrontation directe.
Parce que
c'est justement le truc. En plus, moi, en étant fan de Ferrari et en ayant défendu Michael Schumacher parce qu'il s'était garé à la rascasse, je vais pas critiquer ce genre de consigne parce que. J'ai défendu Ferrari à l'époque où ils pratiquaient ce genre de consigne et je suis tout à fait d'accord avec cette consigne. Là-dessus, je juge pas, mais on peut pas dire que c'est une stratégie décalée. Faut être honnête. Brawn à ce moment-là se trouve dans une situation où il a son leader du championnat, où il a quand même entre guillemets le feu aux miches parce que il a rien de garanti sur sa fin de saison, comme quoi il sait pas si Red Bull va pas dominer la fin de saison ou si les Ferrari et compagnie vont pas remonter pour dominer la fin de saison. Je pense qu'à ce moment-là, il fait le calcul comme il faisait le calcul à l'époque où il faisait passer Barrichello, il lui demandait de laisser passer Schumacher, alors que la voiture dominait et que on en était qu'au Grand Prix d'Autriche, donc à même pas la mi-saison. Là, je pense que Ross Brawn est cédé dans sa tête. Le principal objectif, c'est d'assurer la position de leader du championnat de Button. On le fait passer en tête.
Oui. Ah, complètement d'accord, parce que
de la sauce de l'équipe, et je reconnais tout à fait, au contraire, je trouve même ça plutôt 5 dans une équipe, et il y a un numéro 1, un numéro 2.
Le faire passer en tête, ça aurait été justement mettre à Button moins d'essence, pour qu'il reprenne le large, et qu'effectivement, éventuellement, Barrichello, qui n'était pas au courant que Button changeait de stratégie, parce qu'il l'a appris qu'en fin de course, du moins à mon avis, prennent un coup de massue sur la tête et disent merde, il est passé devant, c'est bon, c'est cuit quoi. Là, ça aurait été le faire passer devant.
Oui, mais là, c'est ce qu'ils ont fait. Attends, sur la piste, les écarts ils sont vraiment très faibles. Je crois qu'à l'arrivée, on a que 6 ou 7 secondes entre Button et Vettel. Les écarts sont vraiment faibles donc. La stratégie avec des peu, une voiture légère en essence, Le truc, c'est que comme tu fais pas de gros écarts, bah, les 25 secondes qu'il faut récupérer sur, pour pouvoir compenser ton arrêt supplémentaire, franchement, il les avait pas du tout sur la course, les 25 secondes.
Est-ce que c'est pas Barrichello qui a pas été à la hauteur?
Moi, je pense que Barrichello, quand il a vu qu'on faisait passer Button sur une stratégie à deux arrêts et que lui, on le laissait sur le trois arrêts, je pense qu'effectivement, il a repassé la bande dans son cerveau, qu'il s'est dit, attends, je suis dans une équipe où il y a Rod Brown, j'ai vécu ça chez Ferrari pendant 5 ans, ils me refont le même coup, et pendant quasiment un relais et demi, il a rien foutu.
Ouais. Mais c'est de sa faute.
Je suis d'accord, c'est de sa faute.
Quand à Choumi, on lui faisait faire un arrêt de plus, ben, il se crachait dans les mains et il l'alignait des tours de qualif. Barrichello, il a pas été capable de le faire.
Mais, ne serait-ce que le fait qu'on fasse passer Button sur une stratégie à deux arrêts, plutôt, et qu'on mette Barrichello, qui est quand même le leader de la course, sur une stratégie à trois arrêts, ils ont quasiment le doublé assuré, sauf pépin technique. Ils vont sans doute pas être récupérés, parce que de toute façon, depuis le début, Vettel, il est coincé derrière Massa. Et qui passera sans doute pas Massa ou avec difficulté. Donc ils sont entre guillemets pas gênés. Donc autant laisser les deux pilotes devant. Barrichello gagne et Button deuxième. Ça fait un doublé pour l'équipe, c'est tout gagnant.
Oui.
Moi ce que le seul truc, c'est même pas un reproche que je fais à Brown. Mais moi ça me fait sourire quand j'entends Brown dire ah non il y a pas de consigne. Bah oui, il reconnaît qu'il y a une consigne. Ton pilote numéro 1, c'est Button, c'est normal. Il a gagné 3 courses. Il est leader du championnat. Il a déjà 12 points d'avance sur Barrichello, qui est son coéquipier.
Il y a une stratégie. Il n'y a pas eu de consigne.
Voilà. Non, il n'y a pas eu de consigne. C'est une stratégie de course.
C'est pas flagrant, en tout cas.
Non, c'est pas flagrant. Mais moi, ça me choque pas. C'est surtout l'espèce de petit pataquès interne. Parce que d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que il y a aucune polémique autour de ça, sauf en interne. C'est juste parce que Barrichello a ouvert sa bouche et que Rose Brown a répondu en faisant la sourde oreille que les gens en parlent. Parce que sinon, les gens n'auraient pas du tout parlé. Parce que personne ne se plaint, personne ne dit rien. C'est normal. C'est la stratégie d'une équipe qui en plus n'est pas sûre de pouvoir dominer toute la saison et qui sont là pour gagner des courses, pour gagner les championnats, et ils font gagner Button et ils ont largement raison. De toute façon, Button, il a largement acquis sa place de numéro 1 chez Brown. On passe à troisième position, Mark Webber, qui finit sur l'étalon de Rubens Barrichello, comme quoi la stratégie à trois arrêts n'était pas forcément super bonne.
Alors, lui, il est sorti du diable Vauvert. Je l'ai pas vu arriver, lui. Hein.
Weber, merci Massa.
Mais personne l'a vu venir.
Non mais c'est grâce à Massa.
Oui, bien sûr, c'est grâce à Massa.
Massa bouchonne Vettel et hop, au moment des ravitaillements, Weber passe devant.
Mais alors, je pense que quand on va parler de Massa, on se concentrera sur d'autres problèmes.
Ouais.
J'ai souvent entendu dans les commentaires, c'est la faute à Massa. On disait même Ferrari doit s'excuser auprès de Red Bull. Il y avait un fan qui disait Ferrari doit s'excuser auprès de Red Bull.
C'est stupide.
Il doit s'excuser de quoi? C'est la course. Il a une voiture qui est moins bonne, mais il est devant. Eh ben, il est devant, il reste devant. Même s'il a une voiture moins bonne. Donc c'était pour le coup, c'était à Vettel de sortir les doigts du cul pour aller dépasser.
C'est pas la première fois, il me semble, cette année que Vettel se retrouve derrière une voiture plus lente. Et à chaque fois, ça lui nique son espoir de victoire.
Ouais, parce que franchement, là, sur la course, avec le potentiel qu'il avait, d'ailleurs, sur tout le week-end, hein, avec le potentiel qu'il avait, moi, je le voyais gagner, mais...
Et quelque part, là, on dit que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Bon, on n'a pas... On a loué lors du Grand Prix de Malaisie. Non, c'est pas Malaisie, pardon, c'est la Chine. Pareil en Italie l'an dernier, finalement on l'a pas beaucoup vu doubler non plus. Hein.
C'est vrai.
C'est moi qui dis ça alors que je dis qu'il va être champion du monde, mais est-ce finalement il n'y a pas une faille
Mais on ne parle pas aussi comme ça de Trulli, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parte devant pour gagner.
Et voilà, est-ce que par exemple il n'a pas le profil Massa? Pendant longtemps Massa, il a eu la réputation d'un mec qui était imbattable quand il était en pôle, qui menait le Grand Prix. Mais par contre, dès qu'il était dans le paquet qu'il fallait doubler, c'était pas ça.
Question ouverte.
Mais
donnez votre avis, n'hésitez pas, laissez-nous votre avis sur le site. Hein.
S'il vous plaît. mais en même temps, ça m'étonne de Vettel, c'est un attaquant. C'est on le voit, il freine plus tard que les autres. Il est à regarder. Autant j'aime bien regarder Button parce qu'il est apaisant. Button, c'est quasiment la minute zen pendant le Grand Prix.
Ouais.
En plus, sa voiture est très jolie à regarder. Autant Vettel, c'est quasiment sanguin, quoi. Tu le vois, il te bouffe toutes les bordures, il te les bouffe.
Ah, c'est pour ça qu'à la fin de la course, il fait la gueule. Hein.
Ouais. Mais je sais pas. Là, le truc, c'est qu'il y avait aussi... Bah, c'est vrai qu'il est coincé derrière Massa, qui a une meilleure voiture. La Ferrari, t'es vraiment... Moi, franchement, la Ferrari, là, vu le potentiel qu'ils ont montré, s'ils font pas de conneries... Je dis bien s'ils font pas de conneries. S'ils pensent à faire le plein et qu'ils achètent des bonbons à la liqueur pour Kimi... Hein. Je pense que Ferrari peut finir troisième du championnat.
Ah, mais c'est
en lutte avec Toyota.
C'est bon. Ce qu'il y a de plus énervant, hein, c'est que la voiture a marché bien ce week-end.
Faut quand même reconnaître qu'ils ont super bien progressé, quoi.
Ah oui, oui.
Ouais, ils ont.
C'était la voiture qui a progressé.
La dernière séance d'essai libre. Ouais. C'est la voiture qui a le plus progressé. Hein.
Mais je vous l'ai dit, moi, je m'attendais à un gros truc à Barcelone.
Bah, on avait prédit Massa pour moi et.
Et Raikkonen pour moi.
Et t'avais prédit Button, Cindy?
Bah oui, hein, moi je suis réaliste. Hein.
Vettel, donc on vient d'en parler quatrième. Il a bien remonté sur la fin. Dès qu'il a passé Massa.
Ouais, ça a été son problème. Hein.
Dès que Massa s'est rangé sur le côté pour le laisser passer. Ouais. Il est remonté comme une flèche. Je crois qu'il a eu 5 tours. À 5 tours de l'arrivée, il devait être à genre 6 ou 7 secondes de Weber et compagnie. Et il est remonté, il a fini...
Il finit à 5 secondes de Weber.
Il finit à 5 secondes de Weber.
Et au final, à 18 secondes, enfin presque 19 de Button.
Après être passé, après avoir passé un bon bout de temps derrière Massa, c'est...
Ouais, ouais.
Mais il a les nerfs.
Mais dès qu'il gagne pas, il a les nerfs maintenant.
Puis là, je pense que ça y est, c'est dans sa tête, ça a pas tardé. Ça y est, lui, il se bat pour le championnat.
Ah oui.
Non seulement il est énervé parce qu'il a pas gagné, mais.
Ah, puis là, il laisse des gros points.
Ouais.
Ah, par contre, le truc que je comprends pas, ouais, on parlait de consigne d'équipe, je ne comprends pas que Red Bull laisse Weber devant Vettel.
Et parce qu'ils doivent considérer que pour l'instant, c'est le
début. Pour égalité. C'est normal.
Ouais, ils sont trop. C'est ça.
Tout le monde marche pas comme Ferrari, hein.
Je pense que Steve. Bah non, attention, là on parle de Brown, on parle pas de Ferrari. Non, je vais défendre Ferrari. On parle de Brown, c'est plus pareil. Mais je pense que c'est ça qui fait que autant je pense que Vettel a franchement le potentiel pour gagner le titre. Autant là sur cette course-là, c'est assez symptomatique. On a Brown qui, je pense, hein, puis c'est un peu la vie qui court. Brown qui laisse passer Button devant Barrichello pour le championnat. Et on a en face Red Bull qui est là au contraire dans une logique qui est on a nos deux pilotes, les deux se battent et on laisse passer les deux. Mais je suis pas sûr qu'avec le tempérament de Vettel, ça fasse plaisir à Vettel.
Ouais.
De voir que, show, alors que Button il est en train de gagner et qu'en plus il gagne alors que c'est son coéquipier qui le mérite. Je pense qu'il va pas être content et qu'il va un petit peu souffler dans les bronches de certaines personnes chez Red Bull en leur disant écoutez, l'égalité, je veux bien, mais là, c'est moi qui joue le championnat, c'est moi qui gagne.
Il y a 20 pilotes, tu peux pas dire à la moitié, vous êtes des faire-valoir, c'est vos coéquipiers qui comptent, quoi. Tu peux pas dire ça, quoi. Surtout à 5 courses du début, quoi.
C'est pas à 20 pilotes, mais là, par rapport à la situation, où on a quand même, les mecs, faut que pendant la course, je pense que les mecs, ils ont quand même le tableau du championnat en tête. Ils voient très bien que si la situation reste en état, ils vont finir avec 18 points de retard sur Button. 18 points de retard en début de saison, c'est sûr que c'est encore jouable. C'est pas mort pour Vettel. Mais c'est quand même le point qu'il pouvait gagner sur Weber, ça fait quand même un point. Et on a vu ces dernières saisons qu'un point, ça pouvait compter.
Ouais, mais pas si tôt, tu vas tuer le
truc. Ouais, hein.
C'est un show quand même. Hein. C'est pas envie de gagner parce que son coéquipier va le laisser passer. Quoi.
Ah non, mais...
faut arrêter.
Je suis tout à fait d'accord. Mais le truc, c'est que justement, ils sont gentils et ils sont dans l'esprit et je trouve ça super. C'est une bonne mentalité et personnellement, je suis content que Weber finisse devant. Mais en face, ils ont une équipe dirigée par Brown qui a un passé, qui prend une décision pendant la course qui laisse à sous-entendre que eux, ils jouent le championnat et qu'ils jouent dès qu'ils en ont l'occasion les victoires et faire passer Button devant Barrichello. Ils vont sans doute pas se gêner. Donc s'ils veulent le jouer championnat et si Vettel veut jouer championnat, il va sans doute aller voir l'équipe et leur dire bon maintenant faut si on veut les rattraper, faut qu'on prenne une décision et qu'on me propulse pilote numéro 1. Même si c'est vrai que c'est tôt, mais le fait justement que ça intervienne si tôt, c'est parce qu'on se retrouve dans un schéma type Ferrari année 2002 ou Ferrari année 2004 où si on laisse partir les Brown, la saison elle est morte dans 2 ou 3 grands prix. Parce que là, à ce rythme-là, si les Browns nous font 2 ou 3 doublés dessus...
Ah là, oui, hein.
Button, il finit tout le temps devant Vettel. À chaque fois, il va lui prendre 2 points sur 2 points. Il va se retrouver avec 2 grands prix d'avance.
L'élastique est bien tendu et il est pas très loin de casser.
Belle expression.
Ouais, mais c'est vrai en plus.
Donc ça, c'est pour les deux grosses équipes en forme de ce début de saison. Et donc on passe à la cinquième place pour Fernando Alonso.
Qui lui était à plus de 20 secondes de Vettel au final. Hein. Donc il y a vraiment là il y a un écart.
Voilà. Bah ça traduit bien la.
Voilà.
La
ça traduit.
Quoique non. Je suis désolé. Normalement.
Bah, oui, ça aurait dû être.
Bah voilà. Ça est dans le top 5. Moi sur le week-end Alonso m'a pas inspiré. Je m'attendais en plus, je me disais il est en Espagne, ils ont fait le coup l'an dernier de lui mettre un tout petit plein pour qu'il se qualifie aux avant-postes. Et là il se classe 8e je crois sur la grille. 8e, il est le pilote le plus léger.
Ça a été ça a été quand même chaud avec Weber, non?
Autant on s'est fait chier pendant la course,
même
mais là,
limite.
Fallait être réveillé.
Même limite. Moi, j'ai trouvé ça limite.
Non. C'est des grands garçons, c'est nécessaire.
Alonso, c'est Alonso, hein, je pense qu'il met quand même quelques roues dans la pelouse.
Dans l'herbe. Mais ça, c'est un truc de Weber. Alors, si je me rappelle bien, c'était au Japon l'an dernier.
Ah, mais il est réputé pour être chiant à passer. Hein.
Il le balance carrément, quoi, dedans.
Si vous vous souvenez, l'an dernier, la fameuse manœuvre de Massa, là, qui passe entre le mur et Weber.
Ouais.
Oui.
On disait quand même que Weber, il le tassait bien à l'intérieur. Et ben, c'est exactement pareil.
Oui, oui.
Ça aurait pu être très dangereux pour Alonso.
Ah, Weber, c'est un type sympa, mais pour le doubler, c'est une horreur. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'il faut faire pour le doubler?
Bah, le doubler, ouais. En fait, le problème, c'est pas de le doubler, c'est de te dire merde, si je le double, il risque de me foutre dehors.
Voilà.
Moi, j'ai trouvé ça un peu limite quand même. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'enquête de la FIA là-dessus quand même.
Oh non, c'est quand même bien qu'il n'y ait pas d'enquête, c'est à un moment donné, il faut qu'il se calme.
Je suis d'accord, ouais. Mais t'as vu ce qu'ils ont sanctionné depuis le début de l'année.
Voilà,
ah non, je suis tout à fait d'accord. Mais disons que là, justement, c'est le cas d'utilisation qui est normal. Il n'y a pas eu une réclamation pour...
Tu sais quoi, tu mets à la place de Weber Schumacher, eh ben on en aurait encore entendu parler...
Ou Hamilton.
Ah, ça, c'est tout à fait vrai.
Ou Hamilton.
Ou Hamilton. D'ailleurs, ça rejoint un peu ça. C'est pendant les qualifications, il y avait McLaren qui, à la radio de Lewis, lui demandait, je sais plus qui y avait quand même devant, le mec, il était à 100 mètres devant lui. Et il y avait les mecs qui disaient, est-ce qu'il t'a gêné? Est-ce qu'il t'a gêné? Mais non, il m'a pas gêné. Il est 200 mètres, il y a deux virages d'avance. Arrêtez, les gars.
En plus, ils peuvent plus porter réclamation pour ça.
Non, ils peuvent même plus dire qu'ils vont pas s'inscrire en 2010, sinon ils vont prendre trois courses de pénalité dans la gueule. Non, d'ailleurs, on en a pas reparlé, ça, tiens. Faut peut-être qu'on en reparle.
Chez non.
En plus, on enchaîne sur le cas.
Ah oui, oh non, on va passer des heures. Alors, sixième position.
On se le garde pour plus tard.
Ah non.
Ah non, ça fait deux jours que je rumine ma colère, ma honte, ma rage.
Il y a des bourdes de toutes sortes, on en a vu plein. Des écrous mal fixés. Des pièces qui marchent mal, qui vont pas vite, plein des conneries, franchement, en course, on en a vu plein. Mais s'il y a un truc qui fout la honte, c'est la panne d'essence, franchement.
Le pire, c'est même pas une panne d'essence. C'est une panne d'essence. Non, enfin, pour moi, une panne d'essence, c'est ce qu'on avait vécu avec Häkkinen, qui dans le dernier tour était obligé de se garer sur le bas-côté, parce qu'il avait plus rien dans le
ouais. Ah, là, il s'est arrêté 200 mètres après, hein, la ligne, hein.
Le truc, c'est surtout que les, bah, c'est comme, c'est un exploit de Ferrari, quoi. Ils ont bien calculé. Mais c'est surtout, c'est que les mecs sont obligés de dire au pilote, alors qu'il a pour la première fois de la saison une bonne voiture, ils sont obligés de lui dire, faut que tu ralentisses, et puis surtout que tu ralentisses de beaucoup. Au point qu'ils lui disent, laisse passer Alonso.
Il a sauvé 200 mètres.
Il paraît que les mecs dans le garage de Renault, ils étaient mais morts. Ils arrivaient pas à le croire quand on leur a dit, ouais, faut que Massa il repasse au stand. Comment ça? Comment ça? Ah non, mais alors ça, c'est sans doute la boulette de l'année.
Mais si c'était arrêté, ça aurait peut-être été pire en termes de classement.
Ah bah, ils ont bien fait d'économiser. Hein. En termes d'image, c'est ridicule.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je le crie, je suis pas d'accord.
Vas-y, crie-le. Je me révolte.
Non, je vais pas réveiller tout l'immeuble. Mais à un moment donné, ils lui disent tu vas pas avoir assez d'essence. Là, on nous dit que s'il s'arrête, il ressortira 7e, quoi, à peu près. C'est ce que c'est les calculs de TF1. Eh ben, franchement, moi, j'aurais préféré 100 fois mieux qu'il s'arrête au stand et surtout qu'il mette des tendres. Ils ont pas pensé à ça, ces couillons. Mais s'ils mettent des tendres, alors que tout le monde est en dur, il peut remonter très facilement, je pense, sur celui qui occupe la 6e place à ce moment-là, je sais même pas.
Mais c'est
c'est Alonso.
Il y a Heidfeld qui est 7e.
Heidfeld.
C'est Alonso.
Non, il y a Heidfeld. En fait, s'il s'était arrêté au stand,
je vois.
Il y a Heidfeld.
Je pense qu'il aurait pu rattraper très facilement Heidfeld. il avait des pneus tendres, il aurait au moins animé cette fin de course et il aurait fini avec panache, plutôt que ce finish en eau de boudin, qui était pitoyable et qui a fait hurler 50% de la population italienne.
Au point que, comment s'appelle, Domenicali a déclaré aujourd'hui que lui se sentait pas responsable, mais que si on lui demandait, il ferait de la place. Personnellement, en tant que fan de Ferrari, là, dans mon fort intérieur, j'ai eu la honte de ma vie devant un Grand Prix de Formule 1. J'aurais largement préféré, en termes d'image, juste en termes d'image, que les mecs ils passent pas pour des cons. J'aurais préféré qu'ils disent, ok, d'accord, on s'est planté, on repasse au stand. Comme dit Enzo, on essaye de sauver les pots cassés et puis on finit septième. De toute façon, la saison elle est morte. Hein. Oui. Avec les écarts de points, la saison est morte. Que de là, demander au pilote de finir 5 tours au ralenti, quoi. C'est ridicule. Tu demandes à un pilote sur les voitures les plus performantes, tu reconnais rapidement. Que tu n'es même pas capable de faire le plein.
Je me posais une question tout à l'heure quand on a remonté la grille et qu'on a discuté un peu. Massa, on était persuadé au début qu'il avait plus, il avait de quoi faire plus de tours que ça. Et j'ai eu l'impression, moi, à un moment pendant la course, qu'il rentrait en même temps que Vettel parce que on se disait peut-être que si on le fait rentrer plus tard, Vettel il va aligner des chronos et peut-être qu'il va le passer. Alors est-ce qu'on n'a pas en fait calqué la stratégie de Massa sur celle de Vettel?
On n'a pas calculé l'influence de ce
rapport. Et qu'on n'a pas, voilà. Et à un moment, par exemple, le plein, on pouvait pas en mettre plus parce qu'il y en restait, j'en sais rien.
C'est pas impossible.
Ça paraît un peu gros ça. Et qu'on se soit gaufré comme ça.
Mais bon, déjà ils ont retiré le comment ça s'appelle? L'excuse de la machine. De toute façon, s'il y avait eu un problème de la machine, je pense qu'ils auraient rappelé Massa.
Ouais.
Comme il avait des durs, il lui aurait tout de suite passé des tendres. Et puis, il aurait fini la course. Il aurait peut-être même fait une meilleure place que quatrième. Et apparemment, le problème... D'abord, Enzo l'a dit, la voiture de Massa est plus lourde.
Oui.
7 kilos. Enfin, pour certains, c'est 2, mais apparemment, ce serait 7 kilos de plus que Kimi Raikkonen. Mm. On a allégé sur les lanières... sur des petits composants. Donc, par exemple, ils ont gagné, je crois, c'est 200 grammes sur les sangles du pilote. Et ils ont donné ça à Raikkonen, parce que Raikkonen, c'est un gabarit un peu plus imposant. Donc, ils ont préféré, pour une course, tout de suite, le faire gagner à Raikkonen. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Et donc, Massa avait une voiture un peu plus lourde. Il ne serait pas impossible, en fait, qu'ils aient tout simplement se soit gouré dans les estimations, comme la voiture est quasiment nouvelle, ils n'aient pas impossible que se soit gouré dans les estimations de la consommation.
Il n'y a plus d'essais libres.
Donc,
plus d'essais privés.
C'est une possibilité. Parce que quand même, là, on part quand même d'une erreur de 4 tours. Et le fait qu'il rentre au même moment que Vettel, c'est soit, comme tu l'as dit, Enzo, soit qu'il se calque sur la stratégie de Vettel. Mais bon, là, à ce moment-là, il a les pneus chauds, il est rapide, donc je ne vois pas pourquoi. Il y a même plutôt l'occasion de faire des tours plus rapides, donc de prendre une seconde ou deux de plus sur Vettel. Soit, tout simplement, c'est que... À la base, ils ont 5 kilos de plus que Vettel, mais la voiture, elle est plus lourde que celle de Vettel, elle consomme plus que celle de Vettel, donc ils sont obligés de ravitailler en même temps.
Ouais. Et en fait, cet incident a quand même des conséquences qu'on n'a peut-être pas mesurées tout de suite, mais dont on a appris aujourd'hui les raisons, du moins dont on a appris les conséquences, pardon, c'est que bon, vous m'attendiez tout à l'heure parce que je regardais la fin des infos et j'ai quand même appris en fait que le prix du baril de brut avait augmenté. Donc du coup, Ferrari ne veut pas des règles de la FIA qui comptent limiter les budgets parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas de quoi payer l'essence pour que les Ferrari finissent.
Mais ça reste un gros mystère.
En tout cas, moi, je suis persuadé qu'en mettant des tendres, ils auraient pu faire quelque chose. Quoi.
Fallait tenter le ravitaillement.
Ils auraient sorti, ils s'en seraient sortis un peu mieux quand même.
Ne serait-ce que pour l'image, fallait tenter le.
Enfin... Et puis quel regret quand même, parce que sans cette emmerde, Massa, il pouvait jouer un podium, hein, peut-être. Hein.
Non. Peut-être pas un podium, mais la quatrième.
Peut-être pas un podium, ouais, mais...
Ce qu'on peut se demander, c'est que le rythme Massa a été quand même, par rapport à sa performance, en course, je l'ai trouvé quand même un petit peu lent.
Ouais.
Donc, est-ce que déjà, ils n'étaient pas en plein doute, et déjà, est-ce qu'ils économisaient pas un peu d'essence?
C'est quand même pas rassurant, alors qu'ils annoncent qu'en 2010, ils veulent supprimer les ravitaillements. Hein.
Ouais.
Alors d'ailleurs, je vois pas l'intérêt en fait de
pas faire de ravitaillement. Ah, c'est parce que t'as jamais vu des ravitaillements de McLaren contre Ferrari qui ravitaillent en 4 secondes. Ouais, juste pour changer les pneus, ça c'était impressionnant quand même. Ça c'était impressionnant. T'avais les pilotes qui savaient économiser leur gomme aussi, parce que quand tu pars avec une voiture qui est blindée d'essence, c'est quand même autre chose à conduire. Voilà, c'est après les. Au moins, tu sais vraiment où en sont les gens, quoi. C'est pas.
Et puis, faut se cracher dans les mains hein, pour doubler après. Hein.
Cracher dans les mains.
Ouais, c'est vrai.
Non, parce que c'est
après, je sais pas ce que ça va donner avec une F1 standardisée comme on peut avoir maintenant. À l'époque, on avait des V8, des V10, des V12, même pour Ferrari ou même Honda à une époque. Donc il y avait une différence de consommation, donc de poids. Quand même, faut rappeler que les ravitaillements en course, c'est un peu la FIA qui l'a autorisé pour, à l'origine, favoriser. Moi, ça s'est quand même beaucoup dit, favoriser Ferrari, qui était la seule écurie à être équipée d'un V. Et donc très gourmand en sens, quoi.
C'était aussi une question de sécurité.
C'était du spectacle. Non, pas du spectacle aussi, on l'a rajouté. Mais il y avait aussi le coup d'avantager, d'aider un peu Ferrari qui avait des problèmes, parce qu'en début de course, ils avaient une voiture. Certes, le moteur était un peu plus puissant, mais quand même beaucoup plus lourde, quoi.
Parce que c'est vrai que moi, dans ma vision, je me dis ils vont tous partir avec le plein, donc les écarts vont pas changer. Enfin, il va y avoir des écarts qui vont se faire, mais c'est par rapport au comportement de la voiture, mais ça sera pas des grands bouleversements. Alors que justement, les stands permettent par la stratégie de remettre un petit peu, de remettre un peu de piment à certains moments et.
Ah ouais, mais là, tu vas avoir des courses où le pilote reprend encore un peu plus de rôle dans la monoplace.
Et il y aura une conséquence qui est pas mal, c'est que comme ils vont partir à pain, et ben la Q3,
ce sera vide.
Parce que bien évidemment. Parce que bien évidemment, ils vont pas faire une Q3 avec des camions citernes, quoi.
Ah, puis tiens, alors, petit sondage interne, parce que comme on parle de la Q3, il y en a certains qui en profitent pour dire, pourquoi pas changer directement tout le système de qualification. Et puis, bien sûr, de revenir au système des 12 tours. Alors, Q1, Q2, Q3 ou 12 tours?
Moi, j'aime bien les 12 tours, mais le Q1, Q2, Q3, c'est sympa aussi. Je trouve ça un peu dur quand même quand on voit là en ce moment, comme les voitures sont proches les unes des autres, et je dis pas ça parce que Raikkonen n'a pas passé la Q1, mais ça peut parfois paraître injuste, quoi. En fait, c'est le dernier qui passe qui va faire un meilleur temps actuellement.
Mais je pense que ce qui
c'est un peu ça dans les 12 tours aussi, non?
Ce qui est dommage cette année, je pense que c'est aussi il y a un truc avec la gestion des pneus.
Ouais, mais ça c'est parce qu'ils ont pas assez de trains de.
Donc je pense qu'effectivement, peut-être
faudrait leur en allouer un ou deux de plus.
Voilà. Ou ne serait-ce que concevoir un train de pneus unique pour la qualification, un truc haute performance, et leur dire voilà,
tu vas pas remettre les pneus qualifs comme il y avait à l'époque.
Le but c'est quand même de faire des économies. Donc à la rigueur, rajouter un ou deux.
Faut arrêter de foutre la gueule du monde avec les économies. On parle de Formule 1 là les gars. Alors revenons. Septième Nick Heidfeld.
No comment, on l'a pas vu vraiment. Hein.
C'est parce que là on a passé les gros, ça va être beaucoup plus light sur la suite.
En gros, tout le reste ça a été transparent, quoi.
Nico Rosberg, pareil.
Pareil.
Ah, c'est du Williams. Il marque un point, c'est bien.
C'est bien.
Il remonte sur Ferrari, attention.
Ouais.
Williams, visiblement, en essai libre, la première journée, ils finissent toujours avec en configuration qualif, justement, pour voir comment la voiture va se comporter.
Ah oui, ils ont aussi mis en panne d'essence. C'est dingue, hein. À la fin des essais, on avait un bon temps de Massa, mais Massa, il était apparemment, les Ferrari, elles ont fait des relais, d'ailleurs, ce qui n'est pas compréhensible, elles ont fait des relais à plein. Et inversement, on avait Rosberg qui faisait un bon temps, mais il faisait un temps en tombant en panne à 2 minutes de la fin, quoi. Là, une vraie panne d'essence, quoi. Le mec, il s'arrête au bout de la piste, il n'y a rien à faire. Il essayait de bouger, pour essayer de récupérer les dernières gouttes. Et t'avais Jean-Luc Moncey qui lui disait, non mais arrête, tu vas gagner 10 centilitres, tu consommes 2 litres au tour, alors arrête. On peut s'arrêter juste 30 secondes sur Lewis Hamilton 9e.
Là, premier au-delà du tour. Un tour.
Oh oui, un tour en plus, ouais. Un tour. Puis doublé par Button dans les dernières minutes, ouais, là c'est le fond pour McLaren. On a retrouvé ce qu'était McLaren aux essais hivernaux, quoi.
Ouais.
Puis on n'a pas l'impression.
L'effet a été de courte durée. Hein.
Comme tout le monde a progressé, le pire, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas progressé énormément. Hein.
On l'a dit, c'est ça le problème, c'est qu'ils progressent tous, mais pas au même rythme.
Toyota. Celui qui ne progresse pas régresse. Hein.
Voilà. Et là, bah, ouais, ils ont rien fait, quoi. Et moi, c'est ce que je disais la dernière fois. Hein. Je suis convaincu que McLaren, ils ont atteint leur maximum. Ils ont développé la voiture comme ils pouvaient. Ils vont grignoter encore, je pense, sur le diffuseur, mais de toute façon. Comme maintenant tout le monde a le diffuseur, bah ils vont vite se plancher sur la voiture 2010.
Ouais. Et pourtant, vous voulez savoir, c'est de loin la plus jolie, la McLaren. Je le redis. Hein.
Ah non, je la trouve pas belle. Mmh. Ah non. Je me suis surpris à trouver belle la Ferrari, alors que je commençais à plus l'aimer.
C'est vrai que je l'aime bien aussi maintenant.
C'est bizarre, hein, dès que ça roule vite, c'est plus beau.
Ouais. Oui, c'est ça.
Bon, McLaren, quand même, faut dire, hein, Lewis Hamilton, qui réussit quand même le tour de force d'être devant les deux Toyota.
Ouais.
Puisque Thibaut Clock est 10e.
Pour le coup, s'il y en a une qui a encore plus réussi que McLaren, c'est Toyota.
Bah, Toyota. Je sais même pas s'il faut qu'on en parle. Mais je vous jure, Glock, je me rappelais même plus je pensais qu'il était resté dans le premier accident. Et c'est à la fin, quand j'ai vu Glock 10e, je me suis dit, Glock, il a pas abandonné. Ensuite, 11e, Robert Kubica.
Bah, on a déjà parlé de la BM. Hein. Beaucoup de changements, mais. C'est mieux qu'à Bahreïn.
Ça a été pas trop mal en essai, mais là, la course de Kubica, c'est, en plus, il est bien qualifié. Je crois qu'il est 8e, 9e.
Ouais, ça reste mieux qu'à Bahreïn au final, hein, mais bon.
Ah bah, en même temps.
Ouais, il est qualifié 10e,
il perd. Il finit 10e. Il finit 11e, ouais. 12e, Nelson Piquet, qui n'a pas bougé d'un poil de cul puisqu'il est parti 12e, il a fini 12e. C'est du Piquet. Alors là, on a retrouvé du Piquet dans toute sa splendeur. Il nous a fait une Williams, des bons essais, des qualifs poussi-coussa et une course de merde.
Ouais, il a navigué entre la 12e et la 14e place avec juste un petit sursaut à la 10e pendant deux tours. C'est tout.
Il a essayé de batailler avec Lewis Hamilton au tout début. C'était alors là tout le monde disait
GP2 style.
Alors, on retrouve le truc de GP2 puis en fait non, Hamilton est passé en un virage, il y a rien eu à dire. Non, mais on retrouve le Nelson Piquet, voilà. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on entend chez Renault dire, alors maintenant Renault, le grand discours, c'est faut lui laisser du temps, il a besoin de temps, etc. Non, c'est bon les gars, vous descendez depuis un an et demi, arrêtez. Surtout qu'en face, on en parlera, je pense qu'on fera 2 minutes tout à l'heure, en face, il y a le 3e pilote de chez Renault qui a couru sur le même circuit, qui fait une pole position impressionnante sur Campos, c'est Romain Grosjean, il gagne la course de main de maître la première, il part 8e de la 2e, en grille inversée, et finit 2e. Il a déjà 18 points d'avance sur Luca Di Grassi, l'un de ses principaux concurrents. Et là, les autres, ils nous disent « Ah non, faut faire confiance à Piquet. » Arrêtez les gars, sérieusement, commencez à lorgner du côté du 3e pilote. Parce qu'en plus, je pense qu'il faut que Renault il commence un petit peu à songer à l'avenir. S'il voyait ce que je veux le dire. Parce que.
Surtout qu'il risque de perdre un pilote à la fin de l'année.
Voilà.
Ouais.
Raikkonen.
Échanger les deux pilotes en même temps, c'est pas bon. Donc, faut pas pilote Piquet qui reste.
En même temps, étant donné ce qu'ils arrivent à faire comme voiture avec Alonso, qui est quand même, entre guillemets, le metteur au point de la F1 en ce moment. On se dit qu'avec peu importe qui change de pilote ou pas, hein, parce que la Renault, moi, j'ai pas trouvé. Alors sur TF1, ça se masturbait, hein, parce que Renault, ils sont en forme et tout. Renault, ils ont fini 5e. Oui, parce que Massa, il était obligé de ralentir, mais sinon Renault, ça a stagné. Enfin, McLaren, ça a régressé. Renault, ça a stagné. Ferrari, ça a fait un bond en avant. Mais ils sont toujours aussi ridicules, Ferrari. 13e, Kazuki Nakajima sur sa Williams.
Bah, on voit pas trop, hein, comme d'habitude.
No comment. 14e, Giancarlo Fisichella.
No comment.
Dernier de la course.
Ouais.
Et puis commence la liste des abandons. Donc Kimi Raikkonen qui a abandonné au 17e tour.
Sur hydraulique.
Encore un problème de fiabilité.
Ouais, c'était, ah, c'était, enfin, c'était, je vais pas dire que c'était génial, mais on le voit, puis d'un coup.
Ce qui est beau avec, avec Ferrari cette saison, c'est que on voit d'autres parties du circuit. On voit des virages qu'on ne soupçonnait pas, qu'on emprunte. Hein, on a revu, grâce à Kimi, on a revu l'ancienne courbe.
Ouais.
Bon, bah, voilà.
Il était quand même à la lutte avec Nickelfeld au début.
Bah oui, parce que.
Donc on peut supposer qu'il est rentré dans les points.
Il fait un super bon départ, il passe de la 16e place à la 10e.
Oui, il y a eu le carton, quoi. Hein.
Oui, enfin, il y a eu le carton. Il n'y a pas vraiment le carton, c'est surtout que...
Non, mais il était Hamilton dixième avant le carton.
Hamilton
il était dixième avant le carton.
Je sais pas ça. Donc il aurait pu faire une nouvelle course, c'est dommage.
Ouais.
Alors, juste un mot quand même, puisqu'on reparle de Kimi. Vous avez entendu, il a sorti l'excuse que d'où il était, il ne voyait pas les feux au départ.
Et il n'est pas habitué à partir 16e place pour petit chou.
Non, ouais. Non, mais à cause des ailerons, soi-disant, de la voiture qui était devant lui, il ne voyait pas les feux. Je trouve ça assez énorme.
Si c'était un problème, il n'aurait pas été le seul. Hein.
Ouais, ça me paraît un peu gros.
C'est une excuse de merde.
Ouais.
Je suis désolé, attends, c'est ce qu'il a dit.
Attends, on a eu des Formule 1 où ils avaient des espèces de cheminées au-dessus de leur capot et les mecs ils se plaignaient pas de pas voir le feu, quoi.
Et ben voilà.
Pourtant, ils sont habitués à être derrière une voiture avec des ailerons cette saison, ils n'ont pas fait une première ligne.
C'est vrai. Non, mais comme il est loin, je pense qu'il y a effectivement ça peut gêner à un moment. Mais bon, on ne l'avait jamais sorti, celle-là, ça va
être. C'est sûr, le taux d'alcool influe beaucoup sur la vision.
Mais
c'est les 50 mon chéri avant le départ, on lui a dit non, Kimi, arrête.
3 points cette année.
C'est pas du chocolat, c'est de l'alcool. Ah mince, je viens de casser mon sachet de thé. La vie d'Ordino. Désolé, hein, je répare mon sachet de thé.
Bon, et donc.
Alors, ensuite, Eki Kovalainen.
Boîte de vitesse.
Abandon sur boîte de vitesse.
Bah.
Voilà.
Et tout le reste, carton.
Voilà.
Tout le reste, le carton. Alors, Yano Trulli. Alors, Yano Trulli, une petite statistique. Il a signé un record ce week-end. En effet, dans sa carrière, Yano Trulli a abandonné 13 fois dès le premier tour.
Ah ouais, quand même.
Partagé ce record avec Andrea De Cesaris et Rubens Barrichello. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le record tout seul avec 13 places. Merci Statest, wow. D'ailleurs.
Andrea De Cesaris, le pilote qui a le plus de grands prix en activité, son actif sans victoire, qui a terminé sa carrière chez Tyrrell aux années 90. Ça, c'était pour votre culture, messieurs.
Et merci au grand maître.
Et sans stat F1 devant les yeux, hein, s'il vous
plaît. Bravo.
Je tiens à le dire.
Pour info, Fisichella est 6ème. Nickelfeld est 26ème avec 6 fois ça lui est arrivé. Mark Webber, ça lui est arrivé 5 fois. Button, ça lui est arrivé 4 fois, autant de fois que Sebastian Vettel. C'était à l'époque de chez Toro Rosso, ça. Felipe Massa, ça lui est arrivé 3 fois. Autant que Rosberg et Adrian Sutil, qui étaient encore impliqués dans l'incident du premier tour cette semaine. Et puis Kovalainen et Sébastien Bourdais 2 fois. Bourdais qui est impliqué dans l'accident. Et les petits derniers, c'est Piqué. C'est étonnant, Piqué seulement une fois.
Seulement un.
Et Buemi qui est 255e. Allez, franchement, les mecs de Stat F1, ils ont des statistiques. Voilà, le mec qui a abandonné lors du premier tour. Et puis Mick, c'est sa première fois lui aussi. Donc voilà, dans le carton, il y avait Trulli, Buemi, Bourdais, Sutil. Mais il y avait aussi d'impliqué, je crois que c'est Piqué hein, qui est un peu touché. Il y a Rosberg qui doit sans doute être touché aussi. Et voilà. On passe au fait marquant de la course.
Mm-hmm.
Oui, alors, j'attends vos propositions. Qu'allons-nous dire?
Ah bah allez, je vais le dire, le problème d'essence de Massa.
Ah merde. Le pépin d'essence de Massa.
Moi, c'est pas tout à fait ça. C'est Massa complètement désemparé qui demande à son équipe, je fais quoi? Je défends ma position
c'est
ou
vrai,
j'économise?
Ouais, ok. Massa qui...
C'est très lié.
Ouais, très lié, et moi, ça va être un truc sur Massa. Non, je déconne.
Je change pas, je veux gagner.
Salaud. Le fait de course
dans le carambolage.
Eh ben moi Alonso je dirais
qui fait l'extérieur à Massa.
Moi je dirais on en a parlé, pour moi c'est la stratégie de Brown Grand Prix.
C'est vrai.
C'est, alors que Barrichello peut gagner, le fait de le faire passer sur, de le laisser sur une stratégie à trois arrêts. Voilà. J'augmente un peu mes chances de gagner.
Ouais.
Surtout qu'entre vous deux, ça va se partager. Alors, c'est Bibi qui va tirer les marrons.
Précise bien comme je l'ai dit aussi, hein.
Alors, on avait ouvert la semaine dernière une nouvelle rubrique qui était le classement de notre championnat à nous, en désignant chaque course le podium de la course. Comme on a commencé que la semaine dernière, on a un petit peu fait rétroactivement, donc je vais donner ce qu'on a fait jusqu'à Bahreïn, et puis ça sera la seule fois que je le ferai. Vous retrouvez le classement sur le blog, et puis je donnerai le classement général, puis on passera à notre podium du Grand Prix d'Espagne. Ça vous va? Donc en Australie, on a placé, en fait, on a reconstitué le podium tel qu'il était à deux tours de la fin. On a mis Button en premier, donc Button empochait 5 points. Vettel en deuxième, il empochait 3 points. Et Kubica en troisième, il empocherait 1 point. Pour la Malaisie, on a respecté le sondage qu'on avait fait, à savoir que Glock était désigné meilleur pilote de la course, devant Alonso avec 3 points et Weber 1 point. En Chine, on a logiquement laissé Vettel sur la plus haute marche du podium. Par contre, on a salué le début de course de Massa qui, avec une stratégie d'attente avec un gros plein, s'était propulsé jusqu'à la troisième place avant d'abandonner. Et aussi la course de Sutil qui avait failli marquer les premiers points de l'histoire de Force India avant de terminer dans le mur. À Bahreïn, on avait placé Button en tête devant Vettel et on avait salué la bonne prestation de Bourdais. Alors, pour l'Espagne, qui allons mettre nous en tête? Qui allons-nous mettre en tête? Si je mets dans l'ordre, c'est mieux.
Ouais. Moi, j'ai envie de dire Barrichello.
Ouais, c'est pareil. Moi, j'étais parti sur Barrichello.
Oh non, vous déconnez. Pas Rubens.
Il fait...
Il aurait pu gagner.
Il aurait dû. Puis il mérite, quoi. Faut bien quelqu'un quand même lui rendre sa victoire.
Ouais.
En tant que fan de Ferrari, je lui ai tellement souhaité qu'il perde au profit de Schumacher.
Que attendez, pour une fois qu'il mérite vraiment la victoire.
C'est vrai. Hein. Donc, on milite pour Barrichello. Pourquoi toi tu proposerais qui?
Je sais pas. Non, mais admettons, ok, ok.
Donc, on met Rubens, ok.
J'accepte.
Ensuite, en deuxième, on met qui?
Weber, peut-être.
Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, Weber, ça me semble bien. Donc, on part pour Weber. Et puis, en troisième.
Button, quand même, on peut pas dire que.
Ok, donc on met Button. Alors, j'actualise, attention. Actualisation enclenchée. Ah, il y a des effets spéciaux dans cette émission. Ouais. Donc, oh là, dis donc, c'est serré en tête. Grâce au classement du SAV de la F1, le championnat est serré. Entre Vettel,
le nôtre en tout cas.
Alors, en tête, parce qu'il a 2 fois 5 points, c'est Button avec 11 points en total. Vettel est premier ex-aequo, mais deuxième parce qu'il a qu'une fois 5 points avec 11 points aussi. Glock est troisième avec 5 points, donc déjà l'écart est fait. Hein, on voit le duel de la saison se profiler. Weber gagne tout de suite la quatrième place avec la quatrième place avec 4 points. Alonso et Massa se partagent la cinquième place avec 3 points respectivement. Bourdais, Kubica, Sutil. Oh, j'ai oublié Barrichello.
Mais il est 5, donc il doit être.
Il est 5, donc il est ex-aequo avec Glock. Il est troisième ex-aequo avec Glock. D'accord. Et donc Bourdais, Kubica et Sutil clore notre classement maison avec 1 point chacun.
À noter l'absence des deux champions du monde, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen.
Tout à fait.
Et les trois.
Ah non, il y a Alonso.
Non,
il y a
Alonso.
Ouais. Il y a Alonso. Avec mais il n'y a pas Schumacher, c'est bizarre. Alors un jour, je vais vous le proposer, Schumacher. Je vais être obligé de vous le mettre. Alors, au championnat.
Championnat pilote, Jenson Button, 41 points. Il a déjà donc 14 points d'avance sur son coéquipier Rubens Barrichello, qui est deuxième avec 27 points.
Oui, mais lui, il est hors concours, vu qu'on sait qu'il ne sera pas champion du monde.
Voilà. Sébastien Vettel a 23 points. Ça fait 19 points de retard.
18.
Quatrième, Marc Weber, avec 15 points et demi. Il passe devant Trulli, donc qui est à 14 points et demi. Puis ensuite, on a Glock, avec 12 points. On remarque qu'aux 6 premières places, on a les 3 équipes.
Les 2 Toyota, les 2 Brown, les 2 Red Bull, les 2 Toyota. Ouais.
Et derrière, se suivent les 2 anciens pilotes McLaren.
Exact. 7e ex-aequo. Hamilton et Alonso avec 9 points.
Ah non, Kimi Massa, ils sont ex-aequo, mais dans les derniers.
Ils sont inséparables, ces deux-là.
À un moment donné, non mais, excuse-moi, je suis du tout coupé. À un moment donné, on a vu en course, on a vu c'est Massa et Alonso. Et c'est bizarre. Dès que je les vois à 10 mètres, je me dis ça va sécher. Je sais pas pourquoi. Il va y avoir un truc. Et j'étais déçu, il s'est rien passé.
Mais à chaque fois, il se passe rien.
Bon, quoique, apparemment, quand Alonso l'a dépassé, il l'a un petit peu dépassé à la façon de, ah bon, il y a un pilote à côté de moi. Histoire de lui faire comprendre, aujourd'hui, le patron en piste, c'est moi. Enfin, il y a Button, il y a Barrichello. Ça me fait mal de dire ça. Il y a Vettel, il y a Weber. Il y a peut-être Massa, et puis après, il y a moi. Des fois, il y a piqué devant moi, mais c'est quand j'ai bu.
Ouais.
Quand la paella était pas fraîche. Donc,
J'en étais à 9ème place. Oui.
Non, je m'excusais de t'avoir coupé et je me risque de t'avoir coupé une deuxième fois.
Donc, 9ème.
Non, mais.
Non, mais coupons-nous. Faisons la coupaison ensemble.
Et donc là. Bon, j'arrête.
9ème,
mais c'est vrai que le problème est intéressant, je trouve. On se coupe, voilà, c'est intéressant. En plus, on est bien en train de pourrir le montage, donc c'est bien.
Bah, on s'en fout, hein, c'est toi qui vas bosser après.
C'est vrai, merde.
Donc, 9ème sur BMW. Oui. Nick Hülkenfeld, 6 points.
Eh hey, putain, Nick, il est devant Kubica.
Devant les deux pilotes Ferrari réunis.
Ah. Kubica, il a pas de points.
Bah ouais.
Et ouais. 10ème Nico Rosberg 4,5 points. 11ème Kovalainen 4 points. 12ème ex aequo avec 3 points, Massa, Raikkonen, Buemi. Et 15ème Sébastien Bourdais avec 1 point. Chez les constructeurs, alors là attention parce que les écarts Braun GP 68 points. Vous vous souvenez, hein, la dernière fois, on a dit qu'un titre constructeur, ça se jouait à 120, 140, 160 points.
Ouais. Et là, on est déjà
ça jouera à 200 cette année.
Oui, sans doute.
Ouais, là, je pense qu'on sera dans une moyenne haute, un peu la moyenne type Ferrari
2004.
Ouais.
Red Bull Renault. Ils ont. Ouais. Red Bull Renault, 29,5 points de retard, avec 38,5 points.
Oh la vache.
Toyota, 26,5 points, ça fait 41,5 points de retard. McLaren, 13 points, ça fait 55 points de retard. Renault, 9 points. BMW et Ferrari sont ex aequo avec 6 points, ça fait donc 62 points de retard.
Mais alors, j'ai un truc que
alors, 62, oui.
Parce que moi, sur mon classement, me mettre Ferrari devant BMW, alors que. Enfin, BMW, ils ont marqué une fois 4 points, une fois 2 points, et Ferrari, c'est 2 fois 3 points. Donc.
Ah, bah c'est bien.
D'accord, c'est BMW qui est devant.
Oui.
Ouais. Ok, d'accord.
Oui, c'est bien. Donc, ça fait 62 points de retard.
Ça fait 3 doublés et demi.
Williams, 4 points et demi, et Toro Rosso, 4 points. Donc là, les écarts, ça commence à.
À signaler que. Pour la première fois depuis le début de saison, les deux pilotes qui ont joué le titre l'année dernière, à savoir Felipe Massa et Lewis Hamilton, ont déclaré après la course que pour eux, le titre, c'était fini.
Et pourtant, le patron de Mercedes, je ne sais même plus son nom, de McLaren, pardon, a déclaré que le titre était encore jouable.
Whitmarsh,
je pense qu'il pensait à Kova.
Non, mais voilà, Whitmarsh, il est dans un autre univers. Mais McLaren, c'est un gros problème de coupe. Mais en même temps, ils sont habitués à mentir.
Oui,
c'est
bon.
Ah non, Yannick, arrête de taper sur les petits, sur les faibles. Là, c'est une petite
équipe. Sur les faibles.
Quoi qu'ils sont quatrième du championnat, hein. Ils en sortent bien, hein, avec 13 points. Mais ils vont se faire doubler. Hein. Enfin, je pense. On passe au drive-thru. Et allez, je vais commencer, tiens.
D'accord.
Alors d'accord, je commence pas. Vas-y Enzo, vas-y, essuie les plâtres. Je voulais commencer pour vous laisser plus de temps. Mais c'est pas grave.
Alors, moi mon drive-thru, c'est contre Fisichella.
Ah, salaud!
voilà. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, au 37e tour, il a perdu, 4 dixièmes de seconde de manière inexpliquée. Et ça, je trouve que pour un pilote de son talent et avec la monoplace dont il dispose, c'est franchement inacceptable.
Parle bien de Fisichella, là. Sur Force India.
Oui.
Ça sent la rébellion là, ça sent la rébellion contre le système.
Non, mais bien sûr, c'était une joke.
Ah, oh la vache, tu me rassures. Ah, pourtant c'était crédible, hein.
Non, mais on a déjà parlé beaucoup, mais ça ne peut être que pour celui qui s'occupe de la stratégie chez Ferrari. Le successeur de Rosberg, je sais pas qui c'est, je veux pas savoir, en fait, tout. Il y en a pas, c'est peut-être.
Voilà. C'est ça le problème, ouais, c'est ça le problème. Ils ont oublié.
Mais le coup de préférer que Massa ralentisse plutôt que de le faire ravitailler, de lui permettre d'étendre et le faire booster sur la fin, franchement, je trouve ça nul parce que ça se termine en autre boudin, leur belle course et leur week-end qui en final était pas si mal parce qu'ils ont montré des belles choses quand même. Et alors que je pense qu'ils pouvaient globalement, peut-être pas en récupérer la quatrième place, mais finir peut-être cinquième en repassant par les stands, quoi. Et comme t'y tiens, je vais aussi mettre mon coup de gueule contre Alonso.
Ouais, vas-y, je veux savoir pourquoi.
Alors pourquoi ? Parce que on en a parlé plein de fois quand c'était Kimi, mais je sais pas si tu as vu, mais en Espagne il a signé des autographes.
Oui, merci Enzo. C'est vrai.
Un photographe qui le fait chier. Et ça, franchement, personne n'en a parlé. Alors que Kimi, on en fait tout un pataquès quand c'est à lui que ça arrive.
Ah non, mais ils en ont parlé pendant l'émission juste avant le Grand Prix.
Enfin, à la une, ouais.
Et c'est limite si c'était un héros parce qu'il avait protégé le fan. Non, non, regardez bien la vidéo, il le vire. Ah oui, il est bien, j'avais oublié. J'y pensais en plus. Ensuite, le suivant.
Donc, non, j'en ai plus.
C'était trois bons drive-thru. Hein. Ouais, on en a trois pour le prix. et ben, ça te dérange pas si je dis que je fasse le mien, on va garder le temps.
Non,
pour
vas-y.
Je pense qu'on va en parler du tien. Ben, moi, c'est un drive-thru pour Rubens Barrichello. Ça me fait rire qu'il se surprenne et qu'il se lamente publiquement. J'ai toujours eu un profond respect pour ce qu'avait fait Rubens chez Ferrari, parce que c'était un homme utile. Voilà. Tu disais tout à l'heure, par rapport à quand on parlait de la stratégie, tu disais on peut pas dire à la moitié du plateau que ce sont des valets. Mais je trouve au contraire que c'est honorable d'être un porteur d'eau. Lui, ça a toujours été un porteur d'eau chez Ferrari, et là il s'étonne presque qu'il n'est pas le numéro 1. Mais attends, tu crois quoi? T'es chez une équipe qui est dirigée par Brown, le mec en face de toi, il t'a dominé depuis le début de saison, tu croyais franchement qu'ils n'allaient pas adapter la stratégie en conséquence? Non mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une discussion avec une erreur. Voilà, Mickey Schumacher, maintenant, il parle le brésilien avec Massa, donc peut-être qu'il peut en essayer de parler en brésilien à Rubens.
Ils vont pas parler ensemble, puisque Rubens a écrit un livre où il dévoilait tout.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est ça, en plus, moi, c'est le truc qui m'énervait chez Rubens, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il crache dans la soupe, quoi. À peine quitté Ferrari, il se plaignait. Oui, mais t'as vécu 5 ans sans rien dire, quoi.
En renouvelant ses contrats.
Et d'un autre côté, bah, il était content d'avoir pu disposer de la voiture la meilleure voiture du plateau et de pouvoir signer quelques victoires quand même.
Et il a renouvelé une voire plusieurs fois son contrat.
Alors j'ai dit trop drive-thru of the weekend.
Ah, moi aussi j'ai hésité entre deux trucs.
Ouais, chouette, on va encore en faire deux.
Mais non, je vais le donner à la FIA puisque eux aussi se sont comportés comme des gamins. Puisque c'est il y a 2 semaines, ouais, sans doute 2 semaines parce qu'on n'en a pas parlé lors du dernier Grand Prix,
ouais.
Ils ont publié le règlement 2010.
Ah. Ouais.
Et qu'est-ce qu'ils nous ont mis parmi tous les petits articles du règlement 2010 ? Le vainqueur du championnat 2010 sera désigné au nombre de victoires. Le comeback de la fameuse idée du titre au nombre de victoires. Le truc que personne ne voulait, qu'ils ont enlevé au bout de 3 jours, si je me rappelle bien. Et donc il est réapparu comme ça, comme par magie.
Mais c'est surtout...
Il y a quoi, il y a une semaine.
Et... Oui. Le pire, c'est que avec Button qui a 4 victoires en 5 coups,
ah bah ouais.
Tout le monde se dit, mais comment est-ce qu'on peut oser proposer ce système qui ferait que Button pourrait être titré avant le début de l'été?
Oui.
Donc, c'est n'importe quoi.
Donc, nouvelle publication du règlement. Et là, comme par magie, le titre est attribué au pilote qui aura eu le plus grand nombre de points. Oh, et que nous dit la FIA ? Que nous dit la FIA ? Oups, désolé, on n'a pas fait attention. Mais c'est pas sérieux, quoi. De toute façon, personne n'en veut.
Mais justement, comme tu parles de la FIA... On peut revenir peut-être juste 30 secondes sur les propositions de règlement, puis enfin on va pas s'étendre, je pense que tout le monde a vu ce qu'il y avait, la suppression des couvertures chauffantes, on a parlé de la fin les ravitaux.
On va pas s'étendre dessus, mais ils vont tous nous les refaire quand même.
Ah, le budget 45 millions, etc.
C'est surtout ça qui pose problème.
Sur l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez notamment par vos points de vue personnels et vos expériences, notamment Enzo qui a certaines expériences historiques de la F1. T'as vu, j'ai pas dit que t'étais un vieux, hein. Mais presque. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces changements qui se profilent?
Ravitaillement, du moins, tour à sec.
Ah non, tu vas pas nous les refaire.
Ouais, ça vient, là. Rigolo.
Je pense qu'on en a dit que c'était en départ.
On a déjà parlé, et puis tout le monde était pour. Le coup de supprimer les ravitaillements, je pense que là aussi, il y en a beaucoup qui l'espéraient depuis longtemps.
C'est vrai, oui.
Donc, je pense qu'on peut pas leur reprocher non plus. On dirait qu'ils ont un peu écouté quand même ce que demandaient les fans. Donc ça, c'est pas mal.
Ça pourrait d'ailleurs impliquer une réduction de la durée des courses.
Ouais.
Et ensuite, quand on dit je veux limiter les budgets et puis les propositions, et quand on voit le nombre d'équipes qui se disent prêts à dire ok, dans ces conditions, on veut bien faire monter une écurie de F1, je me dis que ça peut pas être que négatif. Donc je pense qu'il y a un bon milieu à trouver.
Mais le truc, c'est par rapport aux libertés techniques. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, il y en a vraiment beaucoup pour ceux qui vont être limités en budget. Et c'est ça qui inquiète les grosses équipes.
Mais en plus,
parce que vraiment, on va leur offrir un KERS double puissance, aileron avant et arrière amovible.
Ils vont avoir le droit de faire des essais privés toute la saison.
Ça fait vraiment beaucoup.
Oui, mais d'un autre côté, ceux qui auront un budget illimité, on va dire ça, comme ça, ils auront d'autres moyens. Maintenant, on sait que l'informatique, ça...
Ouais,
font énormément d'essais.
Ce qui est embêtant, en fait, c'est que... C'est la radicalité du truc. C'est-à-dire que pour beaucoup d'écuries, s'ils veulent rentrer dans ce système-là, ça signifie diviser les budgets par 7, 8, 10, voire 12.
Mais tu
en un an,
tu parlais des ordinateurs à des écuries. Dans le règlement actuel, enfin, pas dans le règlement, mais la FOTA s'est entendue pour réduire justement dès cette saison, hein, ce qui fait aussi l'attrait de la saison parce qu'on développe beaucoup moins et que c'est beaucoup plus poussif et qu'on tâtonne beaucoup plus. On voit les équipes qui testent beaucoup de choses pendant le vendredi, puis qui, comme un peu Toyota, hein, tu disais, Toyota a testé pas mal de choses le vendredi, et au final, le week-end, ils ont retiré ce qu'ils avaient testé. Ouais. La CFD, donc la conception par ordinateur, elle est limitée déjà cette saison, l'utilisation des souffleries est limitée, donc ce qui fait que les grosses équipes qui vont dépenser de l'argent, ces équipes-là vont se retrouver avec quasiment que dalle, quoi. Et est-ce que sportivement, c'est bien de faire un championnat à deux vitesses comme ça?
Non, mais justement, je pense que c'est comme la FIA à chaque fois qu'elle fait un règlement. Elle demande 100 en espérant avoir 30, quoi. Donc après, c'est un juste milieu à trouver, mais je pense qu'il sera trouvé, ce juste milieu.
Mais ce qui est affolant, c'est que, en plus, les équipes, elles remettent pas en cause la nécessité de réduire les budgets.
Non.
Ils disent, nous, on voudrait 80 millions.
Ce qu'ils veulent, c'est avoir le contrôle sur ça. Si tu veux, c'est une question de principe. Ils disent, on veut bien réduire les coûts, mais ne nous l'imposez pas.
Ils ont proposé, eux, l'une de leurs propositions, c'est de dire, très bien, on réduit les budgets, mais on le fait graduellement jusqu'en 2012.
Voilà, ouais, c'est ça.
En 2012, on arrive, toutes les équipes ont le budget réduit. Surtout que, en plus, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les équipes qui voudront rentrer dans le championnat auront une aide substantielle de la part de la FIA pour s'intégrer. Ça veut dire qu'une équipe une petite équipe va rentrer sans doute avec un budget de 45 millions, pour elle, ça va être fait. Ils auront en plus quelque chose genre 10 millions d'aide à l'inscription au championnat. Ils vont avoir tout un tas de performances en plus, pas de limite tour moteur, etc. Et en face, les grosses équipes avouent en rien à voir, alors que c'est elles en fait qui font les vrais efforts, parce qu'elles passent d'un budget luxueux, c'est 200 millions d'euros pour Renault cette saison, à 45 millions d'euros.
Ouais.
Donc c'est un énorme effort qu'ils font. Ils demandent juste, ils disent juste, nous on veut bien, mais laissez-nous juste le temps. Nous on a prévu nos budgets sur plusieurs années, on a signé des contrats, laissez-nous juste le temps de nous adapter. Je vais reprendre une différence avec la NASCAR. La NASCAR, c'est pareil, quand ils font un règlement, c'est pas d'une année sur l'autre. quand ils font un règlement, c'est graduel sur 3 ans. Ils disent, voilà, dans 3 ans, la situation sera comme ça. En F1, non, on ferait le règlement et c'est tout de suite derrière.
Ils sont obligés de le faire avec la situation actuelle. Ils, de toute manière, ils peuvent pas dire on réduit de 50% la taille des équipes, quoi. Avec...
C'est quand même un bras d'honneur incroyable aux constructeurs qui ont déjà fait des efforts considérables. Ils ont quand même ravalé leur morgue. On se rappelle quand même qu'il y a un an, ne serait-ce qu'encore un an, hein, les constructeurs disaient mais jamais vous nous empêcherez de faire des essais privés, jamais vous nous imposerez des nouveaux règlements techniques. Ils étaient sur plein de trucs. Toutes les propositions qui ont été faites cette année par la FOTA, ce sont des bonnes propositions. Les constructeurs se sont réunis, ils se sont entendus sur des mesures qui réduisent les coûts. Donc effectivement, qu'on mette en place un plan sur 3 ans pour réduire les coûts, en disant voilà, on va travailler ensemble, chaque année on va voir ce qu'on peut réduire, avec pour objectif 2012, c'est comme les trucs de réduction des effets de serre. On se fixe un objectif, et puis effectivement, les petites équipes qui veulent rentrer, elles peuvent rentrer, à la limite qu'on leur donne un petit bonus. Effectivement, l'idée d'un double KERS, pourquoi pas, hein, ça leur donne juste ça, juste double KERS. Ça leur permet en course d'être un peu meilleur. Surtout si le KERS est généralisé et uniforme pour tout le monde, il sera un peu meilleur.
Ouais, mais là... C'est Ferrari. Pardon.
Ah non, ce week-end, il a pas eu de problème.
Ouais.
C'est vrai.
Excuse-moi, je t'interromps.
Non, mais...
Non, mais tout ça pour dire, au final, on trouve, il y aura un arrangement qui sera trouvé. Je pense que toutes les équipes qui sont, tous les grands constructeurs qui sont impliqués en F1, je pense qu'ils resteront en 2010. Mais comme je te dis, c'est la technique de Mosley, on finit par le connaître, hein.
Non, mais en plus, ouais. il y a aussi un facteur, faut pas oublier, c'est le facteur Ecclestone. Il y a eu un débat dernièrement sur est-ce que Ferrari est nécessaire à la Formule 1. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que la Formule 1 sans Ferrari, c'est plus vraiment de la Formule 1. Ça reste de la Formule 1 techniquement, mais au niveau de l'image, Formule 1 et Ferrari, on voit mal autre chose. On avait Ecclestone qui avait répondu, enfin moi de mon point de vue, si j'ai pas Ferrari en Formule 1, je peux pas vendre la Formule 1. Donc je pense qu'Ecclestone va aussi jouer sa part de responsabilité là-dedans. D'ailleurs, Ecclestone, petite parenthèse vite fait, qui nous en a sorti une très drôle. Il a demandé à ce que l'argent qui est normalement dévolu aux équipes à la fin du championnat soit donné en aide pour développer les circuits. Lui qui, depuis 10 ans, augmente ses 10% à chaque année.
10% tous les ans.
Qui augmente la charge qu'il fait payer au circuit. C'est assez drôle. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un rôle d'arbitre. Là, les équipes menacent, mais...
C'est 4 équipes hein, qui menacent.
Il y aura toujours un accord trouvé, ça c'est certain. Donc, voilà pour le Grand Prix de F1. Donc, avant-goût du Grand Prix de Monaco, pronostic. Et je rappelle, un pronostic, on s'engage. Hein, je veux pas... une voiture sponsorisée par Red Bull.
Vettel.
C'est la loterie là-bas.
Ouais.
C'est la loterie, mais il faut quand même une voiture agile. On en connaît une.
Ouais.
Mais ça me ferait mal encore qu'il gagne, quoi. Allez, moi je prends des risques.
On a pris la dernière fois, hein.
Ouais.
Weber,
ah bah, c'est ce à quoi je pensais.
Ah. Désolé.
Non, mais j'ai un autre choix. Gigi.
Non, j'ai dit Vettel.
T'as dit Vettel?
Ah, mais... Ouais.
Moi, je voyais bien le Red Bull, effectivement.
Ben, dis.
Ah, t'es dans la merde, là.
Tu dis une écurie sponsorisée par un taureau rouge.
Comme tu l'as dit, c'est une loterie, donc.
Alonso.
Je vois bien. Allez, Trulli, tiens.
Oh. Allez, comme en 2004.
Ouais, Trulli, ouais.
Il est pas, ouais.
Bien, puis qui sait jamais, la Toyota peut être à l'aise là-bas.
Ouais.
J'ai pensé à mettre un pilote Ferrari, mais je sais pas. J'ai trop peur.
Non, mais c'est bien, peut-être que ça nous portera chance.
Voilà, donc avant de finir, on passe... Attention Le concours top proposition. Oui, c'est enfin arrivé. On a enfin quelqu'un qui a répondu. Oui, vous entendez, quelqu'un écoute notre émission. je vais laisser Shinji vous rappeler la question.
De quelle équipe sponsorisée par Leyton House Enzo vous a-t-il parlé pendant l'émission consacrée au Grand Prix de Chine?
Et la réponse.
Parce que, en plus, c'est quelqu'un qui a répondu, mais à la réponse. qui a pas seulement laissé un commentaire.
Ah non, elle a répondu, elle a envoyé un mail.
Et donc la réponse, c'était l'équipe March.
Voilà. Mais la réponse Letton House était aussi acceptée.
Et Letton House, voilà. Parce que...
Et donc le vainqueur, et plutôt la vainqueur de...
C'est une candidate, non, pardon.
la vainqueur de notre première édition du concours Top Proposition s'appelle Maëlle. Elle nous vient de je sais pas où, mais on lui souhaite bien le bonjour. On lui rappelle qu'elle peut s'inscrire au...
Elle vient du Sud ou quoi?
Je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre l'accent du Sud, comme ça. Je sais pas, ça me vient naturellement. Non, je pense qu'elle doit être bretonne. Maëlle, c'est un nom breton, donc je pense qu'elle doit être bretonne. Ouais. Donc, bravo Maëlle, tu as gagné...
Un magnète,
oui, tiens, bonne idée, un beau magnète. Un magnète de quoi?
Un magnète Enzo F1.
Et justement, Enzo qui nous présente la question top proposition.
Vous venez de suivre le SAV de la F1 spécial Grand Prix d'Espagne. Répondez maintenant à la question qui vous est posée. Si vous ne vous êtes pas endormi, quel invité de marque était présent dans le stand Brown Grand Prix pendant ce week-end?
Donc voilà pour votre réponse, hein, suivez le chemin qu'a suivi Maël et puis vous serez peut-être tiré au sort si vous êtes plusieurs.
Ouais.
C'est tout en haut du site, il y a contact, vous remplissez le formulaire. Essayez juste, parce que j'ai posé la question à Maël, d'indiquer dans votre mail sous quel nom ou quel pseudonyme vous souhaitez être cité pendant l'émission si vous êtes tiré au sort. Donc voilà.
Et bien sûr, c'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on n'a pas le droit de rejouer.
Tout à fait. Hein.
Tout à fait.
On essaiera de trouver des cadeaux différents à chaque fois. Hein. Le magasin d'Elzo regorge. On vous donnera une petite liste, vous nous ferez vos préférences. C'est Elzo qui paye, alors c'est pas grave. Ah, le salaud. Donc, c'est sur cette dernière touche de bonne humeur qu'on vous remercie de votre fidélité, pour ceux qui nous suivent depuis le début, qu'on vous remercie de nous avoir rejoints pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et puis qu'on vous souhaite...
Et qu'on dit dommage à tous ceux qui sont partis.
C'est vrai.
Ouais.
Mais bon, comme j'écoute pas...
Et puis, on vous souhaite une bonne quinzaine, et on vous donne rendez-vous pour le SAV qui promet d'être un beau SAV, puisque ce sera après le Grand Prix de Monaco. Allez, salut à tous.
Salut.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Thank you.